europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles, Victor Ouvrard.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Trois jours après le Brexit, le Royaume-Uni est un pays ravagé par la division. Géographiquement, l'Écosse, l'Irlande du Nord et Londres ont voté pour le maintien dans l'Europe, le reste de l'Angleterre pour le Brexit. Sociologiquement, quand les jeunes ont voté pour l'Europe, les personnes âgées ont voté contre. De même pour les classes favorisées insérées dans la mondialisation face aux classes populaires paupérisées. Politiquement, David Cameron, le Premier ministre démissionnaire, laisse son parti en lambeaux. Boris Johnson, qui a tracé un parallèle entre Hitler et l'Union européenne, devrait lui succéder. La situation n'est guère plus florissante chez les travaillistes où les jours de Jeremy Corbyn à la tête du parti paraissent compter. Le Royaume-Uni est aujourd'hui un pays sans leadership. Les 27 autres pays de l'Union sont quant à eux au pied du mur. Comment vont-ils gérer la sortie du Royaume-Uni et surtout sauront-ils rebondir et relancer une construction européenne compréhensible par les Européens? Carrefour de l'Europe en direct du studio 42 de RFI. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Christian Lequen, bonjour.
Bonjour, Denis Desesquelles.
Vous êtes professeur à Sciences Po Paris et un grand connaisseur des affaires européennes. Jeremy Cliff, bonjour. Merci d'être en ligne de Londres. Vous êtes éditorialiste à The Economist. Bonjour.
Bonjour.
The Economist qui s'était engagé pour le Remain, c'est-à-dire le maintien dans l'Europe. Vous êtes forcément dépité, vous allez nous le dire dans quelques instants. Philippe Turl, bonjour Philippe.
Bonjour Daniel.
Vous êtes journaliste à la rédaction en langue anglaise de RFI. Et à mes côtés, bien sûr, Eric Scholl. Bonjour Eric.
Bonjour.
Le directeur de la rédaction du Courrier International. Courrier International, le partenaire historique de Carrefour de l'Europe. Petite précision, nous sommes en direct et vous pouvez nous suivre et réagir via Twitter sur le compte de l'émission avec le hashtag Carrefour Europe tout attaché, je répète, Carrefour Europe tout attaché.
J'ai toujours été clair sur mes convictions que le Royaume-Uni est plus fort, plus en sécurité et mieux à l'intérieur de l'UE qu'à l'extérieur. Mais le peuple britannique a très clairement choisi d'emprunter une autre direction. C'est pour cela que je pense que le pays a besoin de nouveaux dirigeants. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir en tant que Premier ministre pour tenir la barre au cours des prochaines semaines et des prochains mois, mais je ne pense pas qu'il soit judicieux que je reste le capitaine qui mène notre pays vers sa prochaine destination.
Car David Cameron devant le 10 Downing Street de vendredi 24 juin au matin. Jeremy Cliff, je l'ai dit, votre journal The Economist s'était engagé pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union le 23 juin 2016, comme sûrement le 11 septembre 2001 ou pour nous les Français le 13 novembre 2015 devient une date historique, j'imagine, dans la mémoire collective. Je suppose que comme vous, comme tous les Britanniques, vous garderez en mémoire toute votre vie ce moment historique. Comment vous l'avez vécu? Vous étiez dans quelle situation, avec des amis? Comment ça s'est passé pour vous?
Ah, nous étions tous dans le bureau de The Economist, en plein centre de Londres, et nous avons vraiment attendu une victoire pour le maintien. Nous avons attendu peut-être une victoire assez grande, même 60%. Alors, c'était un vrai choc, et nous avons dû changer un peu nos plans pour l'éditorial, changer même les images que nous allions utiliser. Mais c'était vraiment un désastre, et nous avons essayé de réfléchir le son de désastre, le son de choc que nous avions chez nous.
Vous étiez assez confiant dans le succès du Remain,
ouais.
Et finalement vous n'aviez pas vraiment préparé le plan B, c'est ça?
Nous avions préparé, mais pas pour. Nous avons attendu une victoire et nous avons préparé des arguments, des images pour toutes les possibilités. Mais émotionnellement, disons, nous étions prêts à commenter sur une victoire pour le maintien, pour parler un peu sur comment l'Europe pouvait continuer avec ce résultat. Qu'est-ce qu'on pouvait apprendre du référendum, ce qui David Cameron devait faire pour relancer son gouvernement, mais nous étions là à 8h le matin, le vendredi, avant un David Cameron qui était en train de démissionner. Alors, nous avons vraiment dû changer notre attitude envers cette question et envers les défis pour le Royaume-Uni dans les prochains mois.
En français, on dit que vous avez eu un peu la gueule de bois. Hein. Éric Scholl, Courrier International, via le site courrierinternational.com, ben vous avez suivi de près les réactions de la presse britannique. Et trois jours après, c'est une forme de sidération qui domine chez nos confrères outre-Manche.
Oui, c'est très intéressant d'ailleurs ce que raconte Jérémy, parce que la presse britannique raconte aujourd'hui la nuit de Cameron. Et à 10h du soir, il était en train de dîner avec sa femme et il croyait encore que le Brexit ne passerait pas. Et on voit à quel point cette sidération est intervenue, et on l'a vu tout de suite dans les unes du lendemain matin, avec une presse extrêmement divisée, bien sûr, puisque d'un côté, on a toute la presse qui a appelé au Brexit, donc la presse tabloïde, Sun, et qui s'est félicitée, hein, ça y est, on est dehors, etc. Et puis The Economist, par exemple, avec une très belle une sur la tragique séparation. Alors ça, c'est le lendemain du Brexit, du vote. Et puis maintenant, depuis ce week-end, on commence à se poser des questions. Évidemment, les journaux gardent leur engagement idéologique de départ, mais on voit toutes les questions qui se posent parce que, et surtout, la presse commence à s'interroger sur les divisions et explore ces divisions. Alors, des divisions évidemment politiques, c'est le cas aujourd'hui. On le voit notamment avec, vous en faisiez allusion tout à l'heure, cette crise qui traverse le Parti travailliste. Mais on le voit aussi, évidemment, avec les divisions géographiques. Et alors, le Scotsman, aujourd'hui, fait sa une avec... Nicola Sturgeon, donc qui est, vous savez, la première ministre écossaise, qui en appelle vraiment à un nouveau référendum, qui veut ce nouveau référendum le plus vite possible elle veut que l'Écosse reste dans l'Union européenne et donc faire un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Et puis il y a aussi beaucoup de regrets, on le voit, on le sent, beaucoup d'amertume. Et la presse revient sur ce référendum, sur cette pétition qui a été lancée depuis maintenant 2 jours et qui a récolté entre 2 millions et 3 millions déjà de signatures, et une pétition qui appelle à revoter à un nouveau référendum. Alors évidemment, toute la presse s'est emparée de cette affaire pour savoir d'abord d'où vient cette pétition.
Et il y a quelques interrogations.
Voilà, elle est quand même maintenant sous contrôle parlementaire. On essaie de vérifier si effectivement il y a vraiment 3 millions de signatures, parce qu'il y aurait beaucoup de signatures qui viendraient d'un peu partout dans le monde et qui ne seraient pas valides. Et puis, la dernière chose qui me semble importante dans les réactions de la presse, on a vu hier des manifestations à Londres. Vous savez que Londres a voté massivement en faveur du IN, de rester dans l'Union européenne, à plus de 60%. Et donc, Londres est aujourd'hui désemparée. Alors, on a vu des initiatives pour Londres indépendant, essayer de maintenir Londres dans l'Union européenne. Il y a un ancien journaliste, un journaliste indépendant britannique qui a lancé ce type d'initiative. Et on sent donc ces divisions d'un peuple britannique aujourd'hui extrêmement divisé, sans parler bien sûr des divisions sur le plan social qu'ont montré le vote.
On va revenir bien sûr sur les implications de ce vote au Royaume-Uni et dans le reste de l'Europe, mais je vous propose d'écouter tout de suite la réaction d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Il était hier devant les étudiants de Sciences Po.
Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Le premier élément, c'est que c'est un échec de David Cameron. C'est un échec britannique. Il y a un Premier ministre qui a mené une campagne, il a pris ses risques, il a aussi pris un peu en otage le reste de l'Europe sur ce sujet, puisque ça n'était pas un référendum européen sur l'Europe, c'était un référendum britannique. Il a perdu. C'est donc son échec. Pourquoi ? On le voit bien parce qu'il y a une partie de la Grande-Bretagne qui a voté contre l'Europe, essentiellement hors de Londres. Et donc on voit bien que quand on n'arrive pas à réconcilier, à rassembler un pays, pour lui faire comprendre ce qui se passe quand on joue sur les peurs, eh bien ce sont ces choix qui peuvent advenir.
On ne peut pas s'empêcher de faire un commentaire sur la médiocrité du personnel politique britannique. David Cameron, qui met en jeu l'avenir de son pays afin de tenter de se maintenir au pouvoir. Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste, qui ne s'est pratiquement pas engagé sur une question aussi vitale que celle-ci. Nigel Farage, du Parti UKIP, du Parti indépendantiste, qui a fait campagne avec un bus sur lequel on pouvait lire en lettres rouges « Nous envoyons chaque semaine à Bruxelles 350 millions de livres. Si nous quittons l'Union européenne, nous pourrons les investir dans le service de santé nationale », mais qui a démontré démenter cette possibilité dès le lendemain du vote, ou encore Boris Johnson, qui est appelé, selon toute vraisemblance, à devenir le prochain Premier ministre, et qui a comparé l'Union européenne à l'Allemagne hitlérienne sur la médiocrité du personnel politique qui veut réagir. Philippe Turl, en tant que Britannique, ou Christian Lequen, ou peut-être les deux. Philippe Turl.
Je vais mettre un peu d'ordre dans tout ça, si vous voulez. Pour commencer, pourquoi ce référendum en origine? Quelle est la raison? La raison est simple, ça n'a pour moi très peu de choses à voir avec l'Europe. C'est une façon pour David Cameron de reprendre le contrôle de son parti, où il était menacé par une partie de ses ministres, de ses députés frondeurs anti-européens, eurosceptiques, qui menaçaient d'aller rejoindre l'UKIP, l'UKIP de Nigel Farage, qui a pour seule plateforme de quitter l'Union européenne. Et donc, David Cameron s'est fâché en disant, si c'est comme ça, pour vous faire rester chez moi, moi je vous promets que je tiendrai un référendum sur l'appartenance de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, mais pas pendant ce mandat, avant 2015. Si je suis réélu en 2015, on verra après. Donc, pendant cette période, pas de référendum, personne ne pensait qu'il allait le faire. Je pense que lui aussi, il ne pensait pas le faire. Les travaillistes ont dit non, le faire surtout pas. 2015 arrive, Cameron est réélu, à la surprise générale, parce que c'était les travaillistes qui étaient qui étaient les favoris dans les sondages. Ils sont battus. Donc Cameron revient au pouvoir, et bien il est obligé de faire ce référendum qu'on a eu la semaine dernière. Alors en ce qui concerne Boris Johnson maintenant, Boris Johnson qui est lié à David Cameron depuis qu'ils sont étudiants et qui sont quand même très proches les uns des autres. Mais Boris Johnson, c'est une opportuniste. Et je ne suis pas convaincu que Boris Johnson soit quelqu'un qui soit complètement anti-européen. Je pense que c'est une posture politique et jamais Boris Johnson croyait que le pro-Brexit allait passer. Mais il fallait qu'il démarque de David Cameron dans cette campagne. Donc il s'est dit, OK, Cameron, il est pour le maintien, moi, il faut que je sois contre. Parce que ce que je veux, moi, c'est de prendre le contrôle du Parti conservateur
et de devenir Premier ministre. C'est l'illustration de la médiocrité du personnel
politique. C'est exactement ça. Donc, il ne le pensait pas. Il pensait que ça allait passer peut-être d'une marge assez fine, assez étroite, l'anti-Brexit, et que lui, il sera là pour représenter les peuples qui n'avaient pas de voix, etc., de mettre dans une position, une posture, pour prendre en main le Parti conservateur et de devenir Premier ministre. Alors, troisième chose, Jeremy Corbyn, donc le chef du Parti travailliste, il était élu à la surprise générale après la faillite de cette partie l'année dernière aux élections législatives en Grande-Bretagne, après la défaite de Ed Miliband. C'est un personnage qui divise dans son propre parti et on n'a jamais vraiment cru, depuis le tout début, que ce soit quelqu'un qui soit vraiment en faveur du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Et je vous rappelle qu'en 1975, lors du dernier référendum, il a voté contre. Et il a eu une posture anti-européenne depuis des années. Donc, il a accepté avec le parti de dire oui, je suis favorable, mais on l'a pas beaucoup entendu. Il a été accusé d'être un peu trop mou et il n'a jamais voulu faire plateforme commun avec David Cameron pour faire des apparitions ensemble en disant nous sommes ensemble pour maintenir la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Et il est largement critiqué pour ça. Il l'a fait une fois. Et c'était lors de la visite de Cameron et de Corbyn, sur l'endroit où cette pauvre femme politique, Jo Cox, a été assassinée il y a une semaine et demie, où ils sont allés ensemble pour poser un bouquet de fleurs. Mais c'est le seul moment où Cameron et Corbyn ont été vus ensemble. Et maintenant, il est sous le feu des critiques en disant vous auriez dû être plus énergique. C'est à cause de vous et à cause de David Cameron que nous avons perdu ce référendum.
Christian Lequen, on a aujourd'hui au Royaume-Uni un pays incroyablement fracturé, ravagé, fracture géographique entre l'Angleterre et le Pays de Galles face à Londres, l'Écosse avec l'Angleterre et le Pays de Galles d'un côté, face à Londres, l'Écosse et l'Irlande du Nord de l'autre, avec le risque d'un référendum en Écosse, Eric Scholl l'a évoqué, une frontière entre les deux Irlandes, entre les deux Irlandes, l'Irlande du Nord, capitale Belfast, et la République irlandaise, capitale Dublin. Il y a vraiment une fracture géographique, puis aussi une fracture sociologique. Ceux qui ont voté massivement pour le maintien dans l'Union européenne, ce sont les jeunes, ce sont les classes insérées dans la mondialisation, face à ceux, les classes populaires, paupérisées, qui ont eu peur de cette mondialisation et qui ont accusé l'Europe de tous les maux. Il faut dire qu'ils ont été aidés par une presse qui, depuis des années et des années, dit le plus grand mal de l'Union européenne.
Oui, vous avez absolument raison. Il y a au moins trois types de clivages. Le premier, c'est le clivage territorial. Effectivement, l'Écosse vote à 62% en faveur du maintien dans l'Union européenne. L'Irlande du Nord à plus de 54%, je crois, l'Ulster. Alors que le Pays de Galles et l'Angleterre votent majoritairement contre. Pour ce qui est de l'Écosse, je ne crois pas pour autant que l'intérêt du parti SNP soit de relancer trop vite le processus d'indépendance. Il est normal que Mme Sturgeon fasse des effets d'annonce, mais il ne faut pas oublier quand même que son parti, le SNP, a perdu le dernier référendum et elle ne peut pas se permettre d'en perdre
un deuxième.
Voilà. Donc je pense qu'il va y avoir une politique au SNP qui va consister à consolider l'indépendance, mais c'est pas forcément pour cela que il y aura un référendum très rapidement. Moi, je pense que c'est plutôt une échéance qui se situe à moyen terme. En revanche, et ça c'est une question que les juristes se posent en ce moment, tous ceux qui sont spécialistes des questions constitutionnelles, bien qu'il n'y ait pas de constitution écrite en Grande-Bretagne, il va falloir, si la Grande-Bretagne sort, consulter les parlements du Pays de Galles, d'Irlande du Nord et d'Écosse.
Et l'Écosse a peut-être une possibilité
de bloquer. Exactement. Il y aura peut-être des blocages. Mais ça va faire partie justement de ce processus
de négociation
et de montée en puissance des arguments du SNP. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième clivage, vous avez parlé de clivage socio-économique. Oui, c'est assez intéressant quand même quand on regarde la carte, on voit que c'est Londres et le Sud, c'est-à-dire cette Angleterre qui a profité de la révolution thatchérienne et de ses conséquences depuis 20 ans, qui vote pour le maintien, alors que dès qu'on est au nord et un peu plus à l'ouest,
dans la partie britannique, désindustrialisée,
plus ouvrière, on vote majoritairement pour la sortie. Et puis le troisième clivage, il est générationnel. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque vous dites les jeunes, ce sont surtout les très jeunes qui ont voté en faveur du maintien, puisque la tranche qui est la plus concernée, c'est la tranche des 18-24 ans, où là vous avez 70% des votes qui sont en faveur du maintien. Donc ça veut dire aussi, à mon avis, quelque chose un peu sur nos démocraties vieillissantes, si je puis dire.
Bien des jeunes ont dit, vous avez pris notre avenir, enfin, sous les réseaux sociaux, vous avez confisqué notre avenir.
Absolument, et ce n'est pas très simple, parce que je crois que c'est lié aussi un peu à la dynamique de notre démographie, au-delà de la Grande-Bretagne, en Europe, de manière plus générale.
Jeremy Cliff, d'un mot vraiment, on ne peut pas s'empêcher de revenir une nouvelle fois sur le rapport schizophrénique que les Anglais entretiennent avec l'Europe.
Dans le sens diplomatique?
Non, dans le sens de l'état d'esprit. La campagne électorale a duré 3 mois. 3 mois, c'est bien pour une campagne électorale, mais pour psychanalyser tout un peuple, 3 mois, c'est, à l'évidence, c'était un peu juste.
Oui, ça a vraiment changé la politique britannique, cette campagne, permanemment. Je crois que après cette campagne, les deux grands partis politiques sont complètement divisés. Il y a les clivages dont nous venons de parler. Mais oui, psychologiquement, on avait le son d'un pays en pleine hystérie. Un pays où il n'y avait pas de confiance dans les autorités. Et moi, je crois que l'un des moments plus intéressants, plus importants de cette campagne, c'était où Michael Gove, le ministre de Justice, il a dit que le peuple britannique a marre d'écouter les experts. Ils n'avons plus confiance dans les experts. Et ça a vraiment été une campagne où l'expertise, les autorités, la connaissance a été mise en question. Tous les chiffres, tous les arguments logiques bien expliqués des experts, des économistes,
Non pas convaincus.
Exactement. Alors c'était vraiment un rejet de l'autorité, de l'État, de l'établissement.
Jeremy, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières informations. À tout de suite, on va revenir sur le Brexit et maintenant.
Geopolitique.
Cruzamento da Europa.
Rescrucia Europei.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquel. Victor Ouvrard.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours en direct du studio 42 de RFI. Brexit est maintenant, dans la première partie de l'émission, nous sommes attardés sur les aspects de ce vote côté britannique. Nous allons consacrer cette deuxième partie aux implications que le Brexit va avoir en Europe. En tout cas, celles que l'on peut imaginer aujourd'hui, car l'impact est tel qu'il est difficile d'en imaginer toutes les conséquences. Je vous représente les invités qui ont bien voulu nous rejoindre. Christian Le Ken, professeur à Sciences Po Paris. Jeremy Cliff, éditorialiste pour The Economist en ligne de Londres, Philippe Turl, journaliste à la rédaction anglaise de RFI, et Eric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International. Je vous rappelle que vous pouvez réagir via Twitter sur le compte de l'émission avec le hashtag Carrefour Europe tout attaché. Alors Christian Le Ken, les Britanniques ont voté, mais l'effet Brexit n'est pas immédiat. Comment cela va-t-il se passer? Il faut d'abord que le Premier ministre britannique en fasse la demande officiellement auprès de ses pairs via un article du traité de Lisbonne, l'article 50, et ça n'a rien d'évitant. Il peut le faire à peu près quand il veut.
Alors, effectivement, il y a un article qui est récent, puisqu'il date de la dernière réforme des traités européens. Avant, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'on...
On n'imaginait même pas.
Mais non, on n'imaginait pas.
Intellectuellement, on n'imaginait même pas qu'on puisse sortir de l'Europe.
On concevait le fait qu'il puisse y avoir de nouveaux États membres, mais certainement pas qu'un État déjà membre sorte de l'organisation. Donc, c'est une procédure qui, bien entendu, n'a jamais été utilisée. Effectivement, pour la synthétiser ou la résumer brièvement, l'État qui souhaite sortir envoie une notification au Conseil européen, donc aux autres chefs de gouvernement. Il y a possibilité de négocier un traité de retrait. Et ce traité de retrait doit être accepté à la majorité des membres de l'Union européenne, bien sûr, sans la Grande-Bretagne, c'est-à-dire la majorité des 27, mais on dit aussi après approbation du Parlement européen. Donc c'est un point aussi qui risque de poser quelques difficultés. Et la situation n'est pas réglée dans les deux ans, à ce moment-là, il y a la possibilité pour l'État qui a demandé à sortir de le quitter automatiquement. Mais on se laisse 2 ans quand même pour négocier le traité de retrait. À mon avis, c'est ce qui va se passer. Sauf que les Britanniques actuellement...
On a l'impression qu'ils jouent un petit peu la montre. Hein.
Oui, bien sûr. Ils ne souhaitent pas que l'on invoque trop tôt les dispositions de l'article 50. Pourquoi ? C'est parce qu'ils préféreraient négocier au préalable leur relation avec le marché intérieur. Voilà. Et là, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'adhérer à l'espace économique européen et donc d'avoir le même statut que la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande, sauf que je ne suis pas sûr que ça convienne très bien.
C'est un statut très contraignant.
Oui, parce que d'ailleurs, les Norvégiens ne cessent de le dire. Ils l'ont dit beaucoup pendant la campagne référendaire. Dans le fond, vous devez appliquer à ce moment-là toutes les dispositions du marché intérieur, mais vous n'avez pas voix à la décision. Donc ça, je ne pense pas que ce soit très acceptable.
Et à la fin du mois, vous signez quand même un chèque.
Absolument. Et vous payez. L'autre solution, en gros, techniquement, c'est un peu la même, sauf qu'elle est bilatérale, c'est ce qu'ont les Suisses. Et puis, il y a une troisième possibilité, c'est simplement un accord de libre-échange, comme il en existe de nombreux entre l'Union européenne et les États tiers, en particulier le Canada. Voilà. Donc, je pense que la position britannique, ça serait d'essayer d'abord d'avoir des assurances là-dessus avant de lancer la procédure formelle de sortie de l'Union.
Jeremy Cliff, est-ce que vous diriez que les Britanniques savent ce qu'ils veulent maintenant qu'ils ont voté le Brexit, ou il y a un grand flou sur la stratégie à adopter ?
ils ne savent pas du tout ce qu'ils veulent. Et c'est ça sera un grand problème. Il faut comprendre d'abord que la coalition pour le Brexit a une très grande fracture entre la minorité qui domine le sommet de ce mouvement, qui est plutôt libéral et qui veut un rapport encore assez étroit avec l'Europe. Mais la majorité de ce mouvement, la majorité des électeurs qui ont voté le Brexit la semaine dernière, ils sont ultra-conservateurs. Ça sont, comme nous venons de dire, des personnes qui n'ont pas du tout profité de la mondialisation et qui veulent vraiment couper les liens entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe. Donc, le problème pour le prochain Premier ministre, peut-être Boris Johnson, l'ancien maire de Londres, qui était l'un des dirigeants de la campagne pour le Brexit, est lui-même vraiment un libéral dans le sens économique et social. Il devra trouver un modèle du Brexit qui est possible diplomatiquement, qui est acceptable parmi le 27 pays membres qui restent dans l'Union européenne, mais qui est aussi acceptable à ses électeurs. Et ça sera très difficile parce que nous, chez The Economist, nous préférerons le modèle norvégien où on garde l'accès au marché unique, mais on garde la liberté de mouvement aussi. Mais la plupart des partisans, des militants du Brexit, ils veulent pas de tout permettre que les citoyens des autres pays membres ont l'accès libre au marché de travail britannique. Donc ça sera très difficile de trouver un Brexit qui est acceptable diplomatiquement, qui n'est pas une sorte de suicide économique et qui est acceptable politiquement dans le Royaume-Uni aussi.
Alors comme il y a peu de chances que le rédacteur en chef de The Economist soit le Premier ministre, le prochain Premier ministre britannique, il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Eric Scholl, courrier international, l'impact du Brexit, il est évidemment européen, bien sûr, mais il dépasse le continent et de loin, la résonance est mondiale. Et c'est en tout cas ce que vous avez constaté à la lecture de la presse du monde.
Oui, on le voit depuis maintenant deux jours. On voit des réactions absolument partout. C'est d'ailleurs très étonnant parce que finalement, le débat sur le Brexit n'a pas emballé la presse auparavant. Pendant toute la campagne, autant en Grande-Bretagne, il y a eu un vrai débat et souvent musclé dans la presse, autant, et on ne l'a pas retrouvé ni dans la presse européenne, relativement peu, et encore moins ailleurs, alors que maintenant, depuis vendredi, on peut dire que la notion de tremblement de terre, c'est le titre de Times ce week-end, est reprise un peu partout. Chacun s'interroge sur à la fois la place de la Grande-Bretagne, de l'Europe, évidemment, de l'avenir de l'Union européenne, et puis aussi, pays par pays, les relations entre l'Union européenne et le pays. Je pense par exemple à l'Afrique du Sud. Voilà, le Business Daily, qui est un quotidien sud-africain, est persuadé que ça va être une catastrophe économique pour l'Afrique du Sud. Moscou, évidemment, s'interroge. Le journal Expert, qui est un grand journal russe, se pose la question de la place de la Grande-Bretagne de demain. Il se dit, voilà, la Grande-Bretagne va retrouver ses frontières d'avant le XVIIe siècle. Le Asahi Shimbun, donc le grand journal, premier quotidien japonais, lui aussi s'interroge et se demande pourquoi ce gouvernement conservateur a provoqué un tel tumulte qui inquiète l'Occident et qui va même jusqu'à menacer les entreprises japonaises. Vous voyez, chacun se pose la question en essayant de comprendre l'avenir. Alors, et puis, bien sûr, la presse américaine, le New York Times, publie un grand article à la une de son site aujourd'hui et se pose vraiment la question du nouvel ordre mondial en disant que la Grande-Bretagne ébranle, c'est vraiment le titre qui est utilisé, ébranle l'ordre mondial qui a été mis en place après 1945.
Là, on se souvient que Barack Obama était venu faire campagne pour le Remain, pour le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Sur place, à Londres, à l'évidence, il n'a pas convaincu les Britanniques. Alors, en tout cas, pour un pays comme le Royaume-Uni, 43 ans au sein de l'Union européenne, cela veut dire une imbrication intime en termes de liens, de règlements, de textes de loi qu'il va falloir détricoter par un moyen ou par un autre. Un exemple d'improbable et prochain casse-tête, celui des compagnies aériennes britanniques, Ablaj Gunaidi.
Le Brexit sonne un peu la fin de la récréation pour le secteur aérien britannique qui a tiré le meilleur du marché unique européen ces 35 dernières années. British Airways et EasyJet, la compagnie à bas coût, sont les premières concernées. Pas de quoi pour le moment revoir sa stratégie, d'après EasyJet, qui dans un communiqué s'est voulue confiante. Elle a expliqué avoir demandé au gouvernement de défendre au mieux le régime dont elle a bénéficié à plein en tant que compagnie aérienne d'un pays membre de l'UE. Absence de restrictions commerciales sur les compagnies favoriser les voyageurs britanniques, ouverture sans autorisation préalable de nouvelles lignes aériennes. Du côté de IAG, le groupe international qui détient British Airways, on ne prévoit pas de turbulences sur le long terme. Mais il n'est pas à exclure, selon les experts du secteur, que les deux compagnies apportent quelques changements de taille. Pour EasyJet, l'installation de son siège social dans l'UE, et pour IAG, le développement de ses autres compagnies, Iberia et Vueling, aux dépens de British Airways. Cela pourrait impliquer de délaisser Londres et son aéroport d'Heathrow, actuelle plaque tournante de l'espace aérien européen.
Pour reprendre un peu l'expression d'Eric Scholl, qui a parlé de tremblement de terre, et les Japonais sont quand même des professionnels du tsunami, un vrai tsunami dont peut-être les Britanniques n'étaient pas conscients. Abla Nushunaidi nous donne l'exemple des futures relations des compagnies britanniques avec le reste du continent. Des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines, Philippe Turl.
On commence aujourd'hui avec la banque HSBC qui dit que si la Grande-Bretagne ne reste pas dans le marché unique, ils vont déménager au moins 1000 emplois jusqu'à Paris. Donc c'est peut-être le début d'un déferlement de sociétés qui disent « la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, donc nous aussi on va quitter la Grande-Bretagne pour aller s'installer à Paris, à Francfort, à Bruxelles, mais on restera pas dans un pays qui n'est plus membre à part entière de l'Union européenne ». Et j'aimerais bien revenir sur ce que disait Eric Scholl tout à l'heure, c'est que pour moi, la chose la plus regrettable dans cette campagne, c'est que tout était basé sur des mensonges. Tout était basé sur des chiffres qui étaient invérifiables, et du côté pro-Brexit et du côté anti-Brexit. Surtout en ce qui concerne l'immigration, qui est devenu le sujet numéro un, qui a convaincu les gens de voter contre l'Union européenne. Et malheureusement, je reste convaincu qu'une large partie des gens qui ont voté contre ne comprennent rien à ce qui se passe en Europe, ne comprennent pas à quoi ça sert l'Union européenne. Ils ont une image dans leur tête d'une organisation à Bruxelles avec des personnes qui forcent la Grande-Bretagne de faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire, et ils ont été poussés à bout par une presse populaire, tabloïde, complètement déchaînée, complètement hystérique, qui racontait n'importe quoi sur l'Union européenne, sur les migrants, disons que tout le monde va envahir la Grande-Bretagne. On n'a aucun contrôle sur le nombre de personnes qui viennent chez nous, que ce soit d'Afghanistan, de Syrie, d'Irak ou de la Pologne. Ils sont tous dans la même situation. Et donc, ils ont dit, très bien, si on quitte l'Union européenne, on peut mettre fin à cela. Bon, on s'en va. Et bien, maintenant, c'est fini. Et Nigel Farage est même en train de dire, mais les promesses que je vous ai faites avant la fin du référendum, je ne peux pas les honorer. Les gens commencent à réfléchir deux fois en disant, peut-être que nous avons fait une erreur. Mais c'est trop tard. Et moi, je ne pense pas qu'il y aura une deuxième référendum.
Vous pouvez bien sûr réagir sur Twitter avec le hashtag Carrefour Europe tout attaché. Jeremy Cliff, comme le disait Philippe Turl, la campagne autour de ce référendum, on a beaucoup parlé et d'immigration, c'était un thème très très fort, et puis aussi de l'intérêt ou non de rester dans le marché intérieur, donc une vision très pragmatique. On a l'impression que le vrai débat sur l'Europe, sur les implications qu'il y a à rester ou non en Europe, on a l'impression que les Britanniques sont en train de le découvrir. Je me trompe ou pas?
Oui, non, vous trompez pas, c'est exactement ça. Et ouais, comme ça a été vraiment de la tromperie pendant cette campagne. Les partisans du Brexit, les dirigeants du Brexit, même les dirigeants comme je viens de dire libéral, qui vraiment comprend la réalité des choix avant le Royaume-Uni, ils ont vendu une vision complètement contradictoire, complètement fausse aux électeurs, et surtout aux électeurs plus défavorisés économiquement, moins qualifiés, moins capables de faire une bonne décision. Et c'est vraiment triste, et c'est vraiment pas du tout c'est pas du tout honorable. Le problème, c'est que maintenant les électeurs commencent à découvrir qu'ils doivent choisir entre l'accès au marché unique et vraiment fermer les frontières. Et c'est un choix très difficile. On a déjà vu la réponse très dramatique des marchés. Le livre a tombé beaucoup. Demain, peut-être encore pire. Ça va être un processus assez long, assez difficile à découvrir ce qui est la réalité et ce qui sont les choix qui nous devons faire comme pays. Et c'est pour ça que je m'imagine que le prochain Premier ministre va convoquer des nouvelles élections générales, parce qu'ils ont besoin d'un mandat à négocier un nouveau rapport réalistique avec l'Union européenne. Et c'est pas du tout possible maintenant.
Alors on peut peut-être se demander, Jeremy Cleese, si le nouveau Premier ministre britannique ne va pas lancer un deuxième référendum pour finalement, on a fait une erreur, finalement peut-être que si on était resté, ça aurait été mieux. Vous l'imaginez, le deuxième référendum, il y a cette pression qu'évoquait Eric Scholl, ces 3 millions de signataires d'une pétition. Vous y croyez ou pas, au nouveau référendum pour finalement, on a peut-être fait une erreur ou pas?
Il est tout à fait possible, mais encore pas probable, je dirais. Même si les électeurs qui ont voté pour le Brexit, même s'ils croient qu'ils ont été trompés, qu'ils ont pas choisi bien, ça serait très difficile parce que dans cette atmosphère ici au Royaume-Uni, avec très peu de confiance dans les dirigeants politiques, dans les hommes d'affaires, l'idée que l'établissement peut rejeter les opinions des électeurs, ça va être très compliqué, très difficile. Et on sait même pas si les électeurs vont changer d'avis, même si ça va coûter très cher. Même s'il y a des grands problèmes économiques, même si le PIB est de plus en plus bas, c'est difficile. C'est possible, mais j'imagine que la priorité du prochain Premier ministre, la priorité de ceux qui sont plutôt réalistes, sera négocier un rapport moins dangereux, plus productif avec l'Union européenne, mais hors de l'Union européenne. C'est probable qu'on sort de l'Union.
Christian Le Cain, vous vouliez réagir, mais vous pouvez aussi, vous qui nous écoutez, réagir sur Twitter avec le hashtag Carrefour Europe tout attaché. Christian Le Cain.
Oui, j'entends bien l'argument qui consiste à dire que les pro-Brexit ont raconté des mensonges et ont essayé de convaincre les plus vulnérables de la société. Mais j'ai envie de dire, quid du discours contraire? C'est-à-dire que je trouve que ça pose aussi le problème de l'engagement de ceux qui seraient pro-européens. Et cette question n'est pas qu'une question britannique, c'est aussi une question française. Il me semble qu'il y a un vrai déficit au sein des partis politiques traditionnels, mainstream, des pro-européens aujourd'hui. Qui sont encore les pro-européens du parti conservateur? Il n'y en a plus. Il y a quelques vieux Tories, mais enfin vraiment, ils sont marginaux. Alors qu'il ne faut pas oublier...
Chez les travaillistes, il y a Denis McShane.
Exactement. Chez les travaillistes, il y a Denis McShane et lui aussi est plutôt en minorité. Si vous prenez le paysage français, les Républicains ou le Parti Socialiste, c'est exactement la même chose. Donc je trouve, là, ça c'est un des points, je trouve, positifs de ce Brexit, c'est que dans le fond, ça interpelle aussi les pro-européens au sein des partis traditionnels, et j'espère qu'ils arrêteront de mettre la question européenne sous le tapis et qu'ils essaieront d'articuler un discours qui soit un peu convaincant. Mais pour ça, il faut travailler la matière européenne. Je veux dire, pour dire des choses simples sur quelque chose de compliqué, il faut d'abord maîtriser la complexité. Et puis, il faut prendre des risques. Emmanuel Macron disait tout à l'heure, le Premier ministre britannique a pris un risque. Bien sûr, mais je veux dire, en politique, on prend des risques. Je veux dire, en politique, c'est pas simplement essayer de faire en sorte qu'il y ait zéro problème. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a une vraie interpellation, là, pour ceux qui appartiennent au camp, on pourrait dire des pro-européens, ou qui croient au projet politique de l'Europe.
Pour les Européens, justement, une des questions sera bien sûr de savoir si ce référendum britannique va donner des idées à d'autres pays. Je pense aux Pays-Bas, à la Hongrie, pourquoi pas à la France. Marine Le Pen a évidemment bondi en réclamant un référendum en France aussi. Le risque de l'effet domino, qui veut rebondir, Eric Scholl?
Oui, il y a un risque d'effet domino. Je pense d'abord effectivement aux Pays-Bas, aussi au Danemark, où on voit des partis populistes, parfois xénophobes, c'est le cas aux Pays-Bas, qui évidemment veulent surfer sur cette voie-là. Et je dirais que ils vont chercher à avoir sans doute un référendum et ils vont essayer de trouver, le Danemark est en train de faire ça, une sorte de nouvelle voie, un peu comme le modèle britannique, c'est-à-dire on est dedans, mais on n'est pas totalement dedans, parce qu'on veut pas non plus complètement en sortir, parce que ces pays-là, comme le Danemark, Danemark ont quand même des gains aujourd'hui, des bénéficient de la coopération européenne. Donc ils ne souhaitent sans doute pas en sortir complètement, mais chercher une troisième voie. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a bien dit tout à l'heure que le Royaume-Uni était assez désemparé. Finalement, on voit une Grande-Bretagne désemparée par rapport à ce vote, puisqu'elle ne s'est pas tellement préparée à cette option-là. Mais j'ai envie de dire, c'est exactement la même chose pour les membres de l'Union européenne. Alors, on a tout de suite vu un grand renfort de rappels diplomatiques, des réunions qui vont s'inscrire pendant tous les prochains jours, qui ont déjà commencé hier. Mais déjà, on le sent, et d'ailleurs, la presse allemande le dit très bien, on voit déjà des dissensions, c'est beaucoup plus que des nuances, des approches très différentes de la part de l'Allemagne, de la part de la France,
sur
le calendrier, mais au fond sur la façon de comment reconstruire une Union européenne. C'est les équilibres même géopolitiques au sein de l'Union européenne qui sont forcément bouleversés, parce qu'auparavant il y avait quand même d'une façon ou d'une autre un axe entre Londres et Berlin. On sait que l'Allemagne a des intérêts commerciaux plus importants, très importants, et on voit bien que les approches sont pas du tout les mêmes. Donc tout le monde en ce moment dit qu'il faut prendre des initiatives, mais on sent des positions qui sont très éloignées avec, je termine là-dessus, des personnels politiques dans les différents pays qui sont soit en fin de mandat, soit je dirais un peu fatigués, c'est-à-dire en perte de légitimité politique. C'est le cas évidemment en France, mais c'est aussi le cas en Italie, on l'a vu avec Matteo Renzi. C'est certainement le cas aussi en Allemagne, donc ça va être assez difficile de trouver des positions communes.
Alors évidemment, l'autre question fondamentale, et Christian Lequen, vous l'avez évoqué, les Européens seront-ils capables de saisir ce référendum au bon en relançant une construction européenne acceptée par les Européens? Je vous propose d'écouter une nouvelle fois Emmanuel Macron, toujours ministre de l'économie, il était hier devant les étudiants de Sciences Po.
Je pense qu'il faut aujourd'hui consulter les peuples et qu'il faut leur demander leur avis, mais il faut le faire dans un bon cadre. Pas sur la base d'un référendum demain sur cette Europe, mais d'abord en construisant avec les peuples européens ce nouveau projet, et puis en soumettant cette nouvelle feuille de route, ce nouveau projet, en effet, à référendum. Il ne faut pas un référendum sur hier, il faut un référendum sur le nouveau projet. C'est ça, moi, ma conviction profonde. Mais il faut d'abord le construire. Si on n'arrive pas à le construire en lui donnant sa densité démocratique, on sombre ou dans la démagogie ou dans l'Europe des élites. Mais il y a une responsabilité de cette génération qui est formidablement importante, qui est aujourd'hui de refonder l'Europe.
Alors on devrait avoir une première réponse mardi, mercredi avec le Conseil européen qui se tiendra à Bruxelles au niveau des chefs d'État. D'ailleurs dans la deuxième partie, première partie 28 chefs d'État, dans la deuxième partie de la discussion 27 chefs d'État, David Cameron ne participera pas. Alors nouveau projet, Eric Scholl a bien évoqué cette difficulté à lancer ce nouveau projet. On peut remarquer que même si l'Italie est affaiblie, Matteo Renzi s'infiltre volontiers dans la brèche, hein. Les Britanniques sont presque plus là, je me fossile et j'essaye de retrouver une place un peu importante en Europe, Christian Lequen.
Oui, par exemple, je pense que lorsqu'Emmanuel Macron dit qu'il faut d'abord penser à un nouveau projet et ensuite éventuellement un référendum, il a raison, mais je ne suis pas sûr que ce nouveau projet soit possible à 28. Parce que, comme le disait très bien Eric Scholl, si on commence à avoir des demandes de différenciation plus marquées au Danemark, en République tchèque et dans quelques autres pays pour ne plus avoir que le marché intérieur, il va de soi qu'on ne peut pas compter sur ces pays pour faire l'Europe politique. Donc moi, je crois que ça relance une idée qui n'est pas tout à fait nouvelle, qui avait été évoquée au début des années 90, qui est celle du noyau dur. Et bien entendu, ce noyau dur ne peut fonctionner que s'il y a un leadership. Ça nous renvoie immédiatement à la question française et allemande, ou la relation franco-allemande. Là, je suis tout à fait d'accord pour dire que dans les conditions actuelles, ce leadership ne fonctionne pas bien. Donc il faudra que les deux pays mettent de l'eau dans leur vin. Du côté allemand, il faudra accepter un peu plus de solidarité budgétaire. Du côté français, il faut donner des assurances sur le fait qu'on continue la réforme.
Un peu de rigueur.
Et puis, autre problème, il a été évoqué aussi, c'est le calendrier électoral qui n'est pas très très bon, puisque nous avons les élections présidentielles au printemps 2017 et les Allemands ont le renouvellement du Bundestag au mois de septembre 2017.
Alors, c'est vrai que comme on relance...
En théorie, je crois que s'il n'y a pas ce projet autour du noyau dur avec la France et l'Allemagne, ça peut sembler classique, mais je ne vois pas quelle est l'autre alternative. On n'a pas de relance possible.
Alors, l'autre alternative autour de la zone euro, vous n'y croyez pas trop ?
Si, parce que je pense que justement, cette initiative du noyau dur doit se structurer autour de la zone euro. Et je pense que des pays comme l'Italie, l'Espagne, les pays du Benelux, la Finlande, peuvent tout à fait soutenir un tel projet.
Comment relancer le projet européen, Philippe Thorl, vous avez une idée ?
Ça va être très compliqué parce que pour une raison simple, c'est que la politique ne fait plus recette. On voit une poussée nationaliste, une poussée des mouvements extrémistes. Le Brexit, c'est l'exemple suprême de cette poussée qui affecte non pas seulement l'Europe, mais on voit aux États-Unis avec Donald Trump, qui lui est en train de représenter les peuples qui se sont oubliés, qui disent... Personne ne me représente. Les politiques, ils sont trop longs, ils nous ont oubliés. Et maintenant, il faut qu'on vote pour quelqu'un qui nous écoute. On a la même chose en France avec Marine Le Pen. Et pour exemple, quand on voit ce qui se passe en Grèce avec l'arrivée des migrants et la Grèce se retourne vers l'Union européenne pour voir qui veut leur donner un coup de main et ils voient que tous les pays de l'Union européenne regardent de l'autre côté pour dire on ne va pas y aller. Évidemment, vous voyez que les Grèces vont commencer à dire ben, on va voter pour quelqu'un qui va nous écouter. Le chômage qui monte en France, on est incapable de le faire baisser. Ben, c'est Marine Le Pen qu'on profite. En Grande-Bretagne, l'Europe est considérée comme bureaucratique. Les partis politiques en Grande-Bretagne sont incapables d'expliquer ce qui se passe. Les couches populaires, ils vont voter pour le Brexit. Maintenant, ils sont morts les doigts. Ça, c'est un vrai problème. Et malheureusement, dans l'Europe, les chefs d'État politiques n'ont pas les moyens de réagir parce qu'il y a de plus en plus de populistes qui viennent. Et donc, leur marge de manœuvre est de plus en plus étroite. Donc, la construction européenne est de plus en plus compliquée.
Jeremy Cliff, d'un mot... Est-ce que The Economist va déménager de Londres en même temps que la City, comme on l'a évoqué en tout cas comme, ouais, non, mais... Peut-être qu'on va vous accueillir à Paris, il y a une chance ou pas?
À ce moment, pas. Mais nous sommes en train de considérer l'Écosse comme partie de notre section européenne au lieu de section britannique.
Merci.
Si l'Écosse quitte le Royaume-Uni et rejoint l'Union européenne, ça va changer tout.
Vous allez vous délocaliser à Édimbourg. Merci à tous les cas d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Victor Ovar et Nicolas Benita avec la complicité de Stéphane Jeunesse. Vous pouvez bien évidemment réécouter cette émission sur RFI.fr et les applis mobiles, mais gratuites de RFI. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, à très bientôt. Au revoir.